Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Quand je serai grande, je serai astronaute.
Vous allez écouter le premier épisode d'une rencontre avec notre invitée, Jeanne. Elle est directrice de l'éducation, en charge du pilotage de la politique éducative, et maman de deux enfants. Nous parlerons de sa profession au sein du système éducatif. Puis, nous aborderons au fil de la conversation des aspects plus personnels de sa vie, tels que son parcours scolaire, sa relation avec un père qui, ne sachant pas lire, l'a poussé vers l'amour des livres et des études. Cet épisode est aussi un hommage à ce père Chibani, né à Bizerte, en Tunisie. Mais qui sont les Chibani? Chibani veut dire « cheveux blancs » en arabe. Les Chibani sont des personnes qui sont venues travailler en France pendant les Trente Glorieuses. Ils étaient recrutés par des structures françaises qui allaient chercher la main-d'œuvre en Algérie, au Maroc, au Sénégal ou en Tunisie. Ils étaient majoritairement des hommes et venaient en France sans leur famille, qui les attendait dans des pays d'origine. Ces hommes venus travailler en France vivaient dans des foyers pour travailleurs immigrés, qui sont appelés aujourd'hui ADOMA. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu accéder au regroupement familial. Et le retour est souvent devenu impossible. Dans le documentaire « Perdu entre deux rives, les Chibanis oubliés » du réalisateur Rachid Oujdi, il nous est montré que la plupart des retraités Chibanis en France, aujourd'hui, ont une retraite dérisoire. Certains ne perçoivent que 130 euros par mois, car ils n'ont pas été déclarés par les entreprises ou ont été sous-classés comme apprentis durant toute leur vie. En 2018, la SNCF a été condamnée en appel pour discrimination envers les cheminots Chibani, qui n'avaient pas eu les mêmes carrières, ni les mêmes retraites, formations, accès aux soins, santé et traitements que leurs collègues français. Ils étaient 848 Chibani à avoir entamé 12 ans de combat judiciaire. Les Chibani se sont brisés au travail pendant des décennies. Leurs corps se sont épuisés par la dureté des travaux qu'ils ont exercés en France, à travailler parfois 12 à 15 heures par jour, sans pouvoir rentrer dans leur pays d'origine. Ils ont entre 65 et 90 ans, et on les nomme aussi les oubliés. Bonjour Jeanne.
Bonjour, ça va?
Très bien, merci.
Bon, bah écoute, on est vraiment enchantés de t'avoir aujourd'hui avec nous sur le podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Et on voulait te remercier d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir, vraiment.
Est-ce que tu peux commencer à te présenter à nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît?
Oui. Alors Jeanne, 42 ans, maman de deux enfants de 7 et 9 ans, un petit garçon et une petite fille, je suis actuellement directrice de l'éducation en charge du pilotage de la politique éducative.
D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça signifie en charge de la de
politique éducative? Alors, être en charge de l'éducation de la politique éducative, c'est tout d'abord en collectivité mettre en application les orientations politiques en termes de politique éducative. Donc, la politique éducative concerne les enfants de 0 à 25 ans.
D'accord.
Donc, que ce soit de la petite enfance, de l'enfance, de l'éducation, de la jeunesse. Ça comprend toutes les questions de sport et de culture. L'idée de la politique éducative, c'est de se dire qu'on construit un parcours pour l'enfant tout au long de sa jeune enfance jusqu'à son adolescence et l'entrée dans le marché du travail. On construit un parcours qui est cohérent pour lui permettre d'être un citoyen éclairé, éveillé et avec la capacité évidemment d'être acteur de sa vie. Donc on touche à tous les domaines, on touche à la scolarité, on touche aux questions de citoyenneté, d'altérité, le rapport à l'autre. Alors on parle beaucoup de vivre ensemble, les orientations politiques, c'est mettez en place une politique autour du vivre ensemble. Et les administratifs, les techniciens, on le décline sur des actions extrêmement concrètes et on affine. Le vivre ensemble, pour nous, c'est plutôt réfléchir à ce qu'est l'altérité, le rapport fille-garçon, le rapport aux autres, les questions de discrimination. On va parler aussi d'égalité des chances en termes d'orientation politique. Et nous, ça va être plutôt l'accès à toutes les grandes écoles ou l'accès accès à des formations autour de l'artisanat. Mm-hmm. En tout cas, c'est vraiment mettre les moyens pour permettre à l'enfant d'être épanoui et d'avoir un parcours qui soit cohérent et qui soit bienveillant et bien traitant.
D'accord. Bah écoute, ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on veut nous aussi.
C'est parfait.
Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de toi aussi ? On voudrait savoir qui est Jiyan et comment était ton enfance ?
Alors, longue histoire, hein, puisque j'ai 42 ans, c'est 42 années. Alors, moi, je viens de Toulon, donc qui est une ville que tout le monde connaît près de Marseille. Je suis l'aînée de 7 enfants, donc de parents maghrébins. Mon papa est arrivé en France dans les années 60.
Oui.
Donc, autant dire que c'était un Chibani avec de la gouaille, avec une volonté de travailler, de s'en sortir. Donc, j'ai grandi dans une famille qui était assez meute de loups, dans le sens où on ne fréquentait pas beaucoup de monde. Mon père était terrorisé par le fait qu'on soit blessé ou touché par les personnes environnantes. Donc, il nous a beaucoup, beaucoup préservés. On a habité plutôt dans le centre-ville de Toulon pour pouvoir avoir accès à des écoles auxquelles habituellement on n'avait pas accès. Il voulait nous donner les moyens pour lui, nous en sortir. Et très souvent, quand on était petit, il nous disait pour les filles, vous n'avez pas le choix. 5 filles, 2 garçons. Donc, pour les filles, vous n'avez pas le choix. C'est soit l'école, soit le mariage. Alors, c'est très brutal quand on est petite. Mais en grandissant, on le comprend. Il y a le poids de la société, puis une société quand même qui est très patriarcale. Et puis, il y a le poids d'être un enfant racisé. Et à ce moment-là, je vous parle des années 80, on n'avait pas grand choix. Malgré les mouvements SOS racisme, etc., qui évidemment, on sait parfaitement ce que ça donne maintenant. On n'avait pas de possibilité. C'était l'école. Et pour une petite anecdote, mon père était le style de personne qui, quand il me voyait à la maison prendre un balai pour donner un coup de main à ma mère, enlevait le balai, me mettait un livre entre les mains et me disait « c'est ta seule porte de sortie ». Et d'ailleurs, le premier livre qu'il m'a offert, j'avais 5-6 ans, c'était « Servitude et grandeur militaire ». Voilà, je commençais à peine à lire. Et donc, je devais lui lire tous les jours une partie. Alors, j'ai pas oublié ce bouquin parce que c'était infernal à lire.
Tu devais rien y comprendre, surtout.
Mais je ne comprenais absolument rien du tout. Mais c'était quelqu'un qui ne savait pas lire et écrire. Et qui a vécu beaucoup de violence en arrivant en France, parce qu'on arrive il arrivait dans un environnement où il ne maîtrisait pas la langue, pas les codes. Évidemment, il fait beaucoup de travail manuel, il était maçon. Donc,
pour lui, l'école a été vraiment très...
L'école a été très, très importante, et elle était à un tel point importante qu'il pouvait être très, très dur avec nous. Je crois que tous les enfants racisés ont attendu le bulletin avec des sueurs froides, la boule au ventre. Tous les enfants racisés ont vu leurs parents dire à l'instit « s'il ne fait pas ce qu'il vous dit, corrigez-le ». On est tous, en tout cas ma génération, on est tous passés par là. Et puis les livres, c'était une passion pour lui de nous voir lire. Il y avait une forme de fierté quand il rentrait dans ma chambre ou dans la chambre de mes frères et sœurs et de nous voir avec un livre. D'ailleurs, pareil, une autre anecdote. C'est assez incroyable, en fait. Ça a jalonné un petit peu ma construction aussi professionnelle et en tant que maman. Il allait au marché aux puces tous les dimanches, il me ramenait des cartons et des cartons de livres qui coûtaient rien du tout à l'époque. Et dans ces cartons de livres, alors évidemment, on avait de tout. On avait la collection Rose, mais on avait du George Sand, on avait du Colette, il y avait du Zola. Et le marquis de Sade, donc dès l'âge de 8 ans, j'ai eu entre les mains le marquis de Sade.
Mais comme ton papa ne savait pas, en fait, ne l'avait jamais lu.
Non, il connaissait pas. Enfin, lui, il m'apportait un trésor.
Oui.
Il m'apportait des cartons de livres. Donc, pour lui, c'était un trésor. Oui. C'était ce qu'il pouvait m'offrir de mieux. Et c'est vrai que... voilà, moi, je lisais et donc je dévorais les livres. Et puis, toute jeune...
Je suis en train de t'imaginer en train de lire Le Marquis de Sade à 8 ans, là.
Je me souviens plus, je crois que c'était Justine et je ne sais pas quoi. Et puis, j'avais un dictionnaire à côté. Et donc,
Tu pouvais comprendre, en fait, réellement.
Je pouvais comprendre réellement. Et c'est vrai qu'avec le recul, j'en rigole beaucoup. Mais sur le coup, ça m'avait choqué pendant quelques temps.
D'accord.
Mais en même temps, voilà, je voyageais à travers les livres. Et il était tellement heureux de me voir, et très fier de me voir m'exprimer correctement. Pareil, j'étais en CE2, et il m'a demandé de lui écrire une lettre pour passer ouvrier qualifié. Mm-hmm. Et ça faisait 20 ans, je crois, qu'il travaillait dans la boîte et il voulait vraiment évoluer. Et je me rappelle mon écriture de petite fille de CE2 mm-hmm. qui disait qu'il méritait de passer ouvrier qualifié. Et il a obtenu son avancement et il pensait que c'était grâce à moi. Mm. Absolument pas, j'ai retrouvé la lettre, c'était blindé de fautes. Je pense qu'il le méritait amplement. Oui. Il a toujours cru que c'était grâce au fait qu'il m'ait donné beaucoup de livres. Mm-hmm. Voilà, ça lui a permis à lui d'évoluer professionnellement. Mm. Donc, l'école était essentielle, essentielle.
Mais, tu vois, c'est émouvant tout ce que tu me racontes là aussi, parce que ça montre aussi le rapport qu'on a à nos parents et le rapport que nos parents ont avec nous. C'est de se dire, d'inverser parfois les situations de, je dirais presque de pouvoir, et de se dire que ton papa, en fait, je pense qu'il devait beaucoup t'estimer, et de se dire que grâce à une petite fille de 9 ans, il avait des postes, ce genre de choses, où il avait des promotions, alors que son travail y était pour beaucoup. Ça change aussi le rapport réellement qu'on a. Là, c'était quelque chose de positif, mais parfois, ça peut être d'autres choses.
Alors oui, il y a ces anecdotes qui sont positives. Mm-hmm. Mais après, évidemment, il y a toutes les anecdotes qui sont extrêmement difficiles, extrêmement violentes, du rapport à la banque, par exemple, du rapport à l'administration, du rapport à l'administration travail social, les assistantes sociales, parce qu'évidemment, moi, il y avait mon papa qui travaillait et on était, beaucoup d'enfants et il tenait à ce qu'on soit dans un logement privé. Mmh. Vraiment, il y tenait et il travaillait dur pour ça. Mmh. Et oui, je voyais toute petite, il m'emmenait partout avec lui pour bien comprendre, bien saisir ce qui se passait, lui lire les documents et écrire aussi.
Et cette dépendance aussi vis-à-vis de ses enfants.
Cette dépendance vis-à-vis de ses enfants. Et puis, tout petit, on se prend la violence qu'ils subissent, la façon dont on leur parle, la façon dont on les maltraite. Mm. Et c'est là où on grandit avec une forme de colère, en fait. Donc, il y a ce côté de « il nous poussait vers le savoir ». Je crois que, il y a quelqu'un qui avait dit « le savoir est une arme ». Il nous poussait parce qu'il savait que c'était important. Mais ce savoir-là, nous facilitait pas toujours la vie, parce que à 8 ans, 9 ans, 10 ans, on pouvait pas fermer les yeux sur la violence administrative qu'ils subissaient.
Tout à fait.
Évidemment, moi, j'ai entendu plusieurs fois un travailleur social dire à mon père, ça fait 20 ans que vous êtes en France, vous savez toujours pas lire et écrire, en balançant le papier. Ouais. Ou en articulant de façon très exagérée, comme s'il était pas capable de comprendre. Mmh. Et il avait une compréhension du monde qui était largement supérieure à toutes ces personnes-là. Donc, et puis oui, ça a inversé. Mmh. Ça mettait parfois dans une situation où on était l'adulte, eux étaient dans la situation de l'enfant, où on les accompagnait, on était la canne, en fait. Mmh.
On les voyait vulnérables aussi.
On les voyait vulnérables. Et c'est dur de les voir vulnérables. Mmh. Et c'est dur de voir l'humiliation qu'ils peuvent subir. Mmh. Parce que quand on est enfant, on perçoit les vibrations émotionnelles, on n'a pas toute la compréhension intellectuelle et ça fait mal en fait, ça fait mal. On grandit avec cette colère. Mmh.
Et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ce que tu viens de dénoncer là. Parce qu'on a été nombreux et nombreuses à être parfois dans ce genre de situation où on a vu nos parents vulnérables, humiliés, et ça a aussi créé parfois aussi des situations où on a pu avoir honte de nos parents.
Oui, alors complètement. Je me rappelle quand j'étais en école élémentaire, on était en centre-ville, donc c'était une bonne école de centre-ville, et j'arrive et dans la classe, je vois que des personnes blanches, j'étais la seule personne racisée. Et je rentre à la maison en pleurant. Et je dis à mon père, je lui dis, mais je suis la seule bronzée. Et là, il me dit, mais c'est pas grave, tu as ta place comme les autres, etc. Et puis, je me suis dit, OK, j'ai ma place comme les autres. Et je voyais leurs parents venir les chercher à l'école. Mm. Et petit à petit, dans cette école-là, il y avait quelque chose qui grandissait en moi qui ressemblait à de la honte. Mm. Parce que mon père venait en bleu de travail, qu'il était petit, très bronzé, trapu, avec son petit accent, sa gouaille méditerranéenne, où il parle à tout le monde, il tape sur l'épaule de tout le monde, il tutoie tout le monde. Et je voyais les autres parents qui étaient dans l'inversion totale. Et je lui demandais de pas venir me chercher, petit à petit. J'allais chercher mes frères et sœurs, et je lui disais, c'est pas la peine, te dérange pas, je connais le chemin. Et je crois que le pire, c'était au collège, où une fois il est venu, j'ai fait comme si je l'avais pas vu.
Ouais.
Pareil, dans un collège qui était aussi beaucoup de blancs, etc. Et là, maintenant, des années après, je me repasse ça et je m'en veux énormément parce que je me dis, mais il m'a offert cette possibilité de me dire que je n'étais pas inférieure aux autres, que j'avais les mêmes capacités intellectuelles. Il était dur, il était derrière nous constamment. Il nous disait très souvent, ma seule richesse, c'est que vous ayez 7 bacs. J'ai 7 enfants, je veux 7 bacs. J'ai pas d'argent.
Ah non, mais le bac, c'était important.
C'était important, le bac. J'ai pas de richesse, je n'ai rien du tout. Je veux ça. Ça voudra dire que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai subi a du sens. Maintenant que j'ai ça en tête, et d'ailleurs, j'en ai là des frissons, mais je me revois encore être avec ces petites copines blondes et me sentir au même niveau qu'elles, etc. Et voir mon père arriver et faire comme si il était, je le voyais pas, et partir avec elle. Et voilà, toutes mes années collège, je l'ai mis de côté. Je ne lui donnais pas les dates des réunions parents.
Oui.
Je disais que mes parents pouvaient pas venir, qu'ils n'étaient pas disponibles, qu'ils étaient ailleurs.
Et pourquoi tu donnais pas les dates?
Parce que tout d'abord, je pense que je ne voulais pas qu'ils subissent des moqueries. Et je ne voulais pas, par ricochet, subir ces moqueries aussi. Ils ressemblaient pas aux autres parents. Ils avaient une forme d'approche des enseignants qui était oui monsieur, oui madame. Les autres parents étaient tenaient tête aux enseignants, etc.
Un aplomb face à légitimité, on va dire.
Légitimité. Et là, je voulais pas qu'ils soient dans ce contexte-là. Donc je ne leur disais jamais. Et pourtant, alors pour le coup, j'ai eu une scolarité qui était une bonne scolarité. Pourtant, ils allaient entendre des belles choses. Et pourtant, ils allaient entendre que tout se passait bien et que, voilà, j'avais de bonnes notes, etc. Mais je ne voulais pas les faire entrer dans cet univers-là parce que je savais qu'il était violent pour eux. Je ne voulais plus les voir aussi se faire humilier. Et je ne voulais pas être humiliée. C'est très dur ce que je dis.
Non, mais c'est très dur ce que tu as vécu aussi.
Oui. Mais c'est vrai que je les ai mis à l'écart. Et pourtant, mon père croisait certains de mes enseignants. Je pense à mon prof de sport au marché, lui poser la question, etc. Et il a dû lui dire pourquoi vous n'êtes pas venu. Mais mon père m'en a jamais parlé. Voilà.
Toi, tu penses qu'il le savait ?
Je pense qu'il le savait. Il est venu de moins en moins me chercher à l'école. Au lycée, il venait quasiment plus. Et il est venu à la fac. Parce que j'étais la première fille quasi de Toulon ou de ma génération à quitter la maison pour aller en cité universitaire et faire des études.
D'accord.
Ça a été très, 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 très compliqué parce qu'une femme maghrébine musulmane ne quitte pas son foyer, sauf si elle est mariée. Moi, je n'étais absolument pas mariée. J'avais 17 ans, j'avais le bac en poche. J'avais qu'une seule envie, c'était découvrir le monde. Et c'est vrai que pour le coup, ma mère a résisté. Voilà, une fille qui part. Lui, absolument pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon papa m'a eu son premier enfant, il avait 41 ans.
D'accord.
Voilà, il m'a eu très tard. Donc, il arrivait à la soixantaine quand je suis rentrée à la fac. Et c'est lui qui m'a poussée. C'est lui qui m'a poussée. J'avais peur. J'étais complètement flippée d'aller à l'université parce que je pensais que c'était pas pour moi. C'était que les gens qui étaient très intelligents, qui avaient les moyens, c'était pas pour moi. Et il m'a poussée. Là, j'ai eu tellement besoin de lui que j'ai eu besoin de sa présence et que j'ai verbalisé ce besoin-là. Pareil, une anecdote. Bon, le premier jour, ça a été très douloureux pour lui. Et il a dormi dans sa voiture en bas de la cité universitaire. Et le soir, c'était une heure de route, hein. Et le soir, il finissait le travail et il venait en bas, poser des questions au gardien. Il ramenait des pommes au gardien pour savoir si tout se passait bien, etc. Et il restait en bas dans la voiture jusqu'à ce que j'éteigne la lumière et repartait. Une autre anecdote, j'avais besoin de livres, il a arrêté de fumer, il fumait depuis 30 ans. Il a arrêté de fumer et cet argent des cigarettes, mais il me le donnait. Mmh. Donc toutes les semaines, il venait avec les courses, il venait me chercher, il venait avec les courses et il me donnait cet argent. Donc c'était pas grand-chose, hein. Mmh. Mais ça me permettait de voilà, ça me permettait d'acheter des bouquins.
Mais c'est très symbolique, c'est pas grand-chose, hein. Arrêter de fumer pour un fumeur, je pense que c'est quand même pas grand-chose.
Oui, c'est vrai.
Puis c'est très beau et c'est important aussi de dire que bah, les papas racisés, c'est pas parce qu'on est racisé qu'on est de mauvais parents et que les sacrifices, il y a énormément de sacrifices qui sont faits. Et tous ces petits témoignages, toutes ces petites choses, en fait, que nos parents, c'était pas toujours avec les mots, c'était pas toujours, ils avaient aussi une façon de montrer les choses qui était totalement différente de ce qu'on pouvait voir aussi, dans ce qui pouvait être la norme, pour les personnes blanches qu'on côtoyait. Bah, c'est important aussi de montrer que par ces petits gestes, c'était beaucoup d'amour derrière tout ça.
C'est beaucoup d'amour et c'est vrai qu'on le comprend qu'après, parce que quand on est petit, on a l'impression qu'on est dans un milieu familial qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. On est plus contraint, on finit l'école, on rentre à la maison. Voilà, on n'a pas la liberté, enfin ce qu'on s'imagine, la liberté des autres. Mais en fait, on a l'amour, il se traduit différemment, mais on l'a. Moi, je sais que quand on avait, par exemple, une classe verte ou une classe de neige, ils passaient tous les samedis, dimanches à enlever les câbles de fil. Parce qu'ils vendaient l'intérieur, en fait, ils prenaient des câbles et ils vendaient l'intérieur, qui était forme de fil, en fer, je ne sais pas quoi. Et on lui donnait un coup de main, donc on enlevait les câbles comme ça tout le week-end pour se faire de l'argent. Et pour nous permettre de partir en classe verte, la rentrée scolaire, il se pliait en quatre, mais la rentrée scolaire, on était apprêtés, on avait tout ce qu'il nous fallait, on avait intérêt à bien
travailler,
bien nous occuper de nos affaires aussi, mais c'était une priorité. Et il disait souvent, à l'école, on ne verra jamais ce que tu as dans le ventre, mais on verra ce que tu portes.
C'est ça. Et c'était important aussi, hein. Moi, je sais que ma mère, c'était quelque chose aussi, la rentrée des classes, c'était très important parce qu'elle savait aussi ce qu'il y avait derrière tout ça, avec bien sûr tous les stéréotypes, le poids du oui, mais non, mais les allocations familiales, ils s'en servent pour eux, pour si. Et ma mère, elle mettait un point d'honneur à ce que chaque rentrée, il fallait être impeccable.
Mais complètement. Quand j'entends, quand il y a la prime de Noël, les familles achètent des grands écrans, achètent ci, achètent ça. Moi, je suis désolée, mais la prime de Noël, c'était vraiment les cadeaux de Noël qu'ils nous faisaient. On est musulmans, mais on avait quand même le sapin de Noël parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de différence entre les enfants et nous. Et ça a été violent pour lui parce que je sais qu'en tant que musulman, il aurait aimé que les fêtes musulmanes, ce soit une vraie fête pour nous. Et là, les vraies fêtes pour nous, c'était Noël. C'était les moments des vacances, en fait. Mais il faisait cet effort-là et... parce qu'il voulait qu'il n'y ait pas de différence avec les autres. Et pour l'école, c'était la même chose. Je lui disais, papa, j'ai besoin d'un livre, même si on était à la moitié du mois et qu'il avait besoin de, enfin, qu'il n'avait plus les moyens. Il faisait des petits cash à droite, à gauche, et il me disait, tiens, l'argent, tu vas acheter des livres. Toute ma scolarité, j'ai rencontré des enseignants qui étaient extraordinaires, mais des enseignants qui me disait que je n'y arriverais pas, que ça sert à rien du tout. J'avais un enseignant au lycée en éco qui me disait « Mais de toute façon, tu vas pas aller très loin. Pourquoi tu veux faire des études universitaires ? Fais comme toutes les autres Fatima. »
Mais c'est d'une violence.
Au collège, je me souviens, c'était pendant la guerre du Golfe. Une de mes enseignantes en histoire-géographie, son mari était parti donc à la guerre. Et elle nous a mené une vie dure en nous humiliant, en nous rabaissant, en nous disant qu'on ne servait qu'à une seule chose, comme nos parents, aller ramasser les poubelles et nettoyer les vitres. Et elle disait de façon très décomplexée. Et nous, on prenait.
Et puis tu savais que tu ne pouvais rien dire.
Mais on pouvait rien dire. Ouais. On avait vers qui se tourner, vers nos parents. On nous aurait dit ben c'est pas grave, laisse
ça, les couleuvres,
voilà, laisse la couler, ils nous acceptent, ils nous tolèrent. On en parlait avec une maman il y a quelques jours où on l'a tous entendu, ils nous acceptent chez eux, ils nous tolèrent chez eux, c'est pas grave, laisse couler, travaille plus dur encore et va respecter ton travail.
Ce qui n'est pas tout
la
preuve, hein.
On se rend compte que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai que pour le coup, ça revenait beaucoup à la classe sociale. Mmh. Vous êtes de telle classe sociale, vous êtes des personnes racisées, mmh. vos parents sont comme ça, vous n'irez pas loin, mmh. ça sert à rien. Et c'est vrai que quand, voilà, à chaque fois que j'ai obtenu des diplômes, mon père retournait voir les enseignants en
avec
disant,
les diplômes
voilà,
à la main.
voilà ce que ma fille a obtenu et sur le marché de Toulon, tout le monde mmh. était au courant. Ah mais oui, tout le monde savait. Mmh. Enfin, je veux dire, il a fait encadrer chaque diplôme, mmh. il en était fier. Je crois que même pour le bac et le brevet, il a gardé les petits papiers qu'il a découpés. c'était une grande fierté de leur dire, bah voilà.
Une revanche sur la vie aussi.
Une revanche sur la vie. Vous y avez pas cru, vous nous avez humiliés, parce que c'était très souvent de l'humiliation, mmh. et la façon dont ils parlaient à nos parents, c'était dur à voir. Et pour lui, oui, c'était une forme de réussite. Mmh. Et pourtant, une forme de peur aussi. Mmh. Parce qu'il savait que plus j'évoluais dans mes études universitaires, plus je me retrouvais seule en tant que racisée. Et il savait que ça allait pas être facile. Mmh. Et même professionnellement, hein, juste avant son départ l'année dernière, il était à la maison et voilà, un poste où j'ai beaucoup, beaucoup d'agents mmh. sous ma responsabilité. Et il me disait, c'est trop, ils vont te faire du mal. Mmh. Prends un poste moins important, ils mmh. vont te faire du mal, ils vont te blesser. Mmh. Il avait peur que plus j'évoluais professionnellement et plus je sois à la merci. Mmh.
Oui, parce que t'es toute seule, hein, et ça, on le voit aussi, hein, que ça soit dans les études ou à un moment on est seul, et quand on est seul, on est encore plus affaibli, quoi.
Ah, complètement. Mmh.
Et on c'est est vrai un peu à la merci, du coup.
On est complètement à leur merci. Et je lui disais, mais t'inquiète pas, je suis forte et je me battrai. Mmh. Et je crois que ce qui l'inquiétait, et il a essayé de me le dire, c'est justement que j'étais tout le temps dans le combat. Mmh,
voilà. C'est épuisant à la fin.
C'est épuisant.
Depuis ton enfance, ouais. le fait de se dire, de voir ses parents humiliés, de prendre des coups, d'entendre les réflexions, de devoir avancer malgré tout, parce qu'on, voilà, on a d'autres problèmes aussi, comme tout le monde, mais d'avoir ça en plus.
En fait, on part du principe qu'on n'a pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, on avance. Mm. On laisse toutes ces, enfin, parfois, oui, ces émotions de côté. Et on avance et on se bat. Et je disais à mon père, j'ouvre les portes pour ceux d'après. Mm. Comme tu m'as ouvert les portes, tu t'es battu pour qu'on puisse aller à l'école. Alors, moi, je parle de ma scolarité, mais mes frères et sœurs, enfin, dès la troisième, c'était, ou dès la cinquième, orientation vers des classes professionnelles. Mm-hmm. Je me rappelle une de mes sœurs qui est intellectuellement très fine mais qui n'était pas forcément adaptée au milieu mmh. scolaire et à la violence autoritaire du milieu mmh. scolaire. Et il voulait l'orienter, il me semble, vers un CAP fleuriste. Mmh. Alors voilà, la décision de mes parents, c'était de serrer encore plus la ceinture, de travailler encore plus. Et ils l'ont mise dans un collège privé pour qu'elle finisse sa scolarité mmh. ces deux dernières années. Et elle a fait des études d'ethnologie. Mmh. Enfin, pour mon frère, ça a été la même chose. Et aujourd'hui, il a un métier dans la banque et il est très, très heureux et épanoui. Donc, on nous a mis des bâtons et des bâtons et des bâtons. Et on nous a déjà, voilà, on a déjà tracé nos destins, en mmh. fait.
C'est ça.
Nos destins étaient...
Dès l'enfance,
d'être dans la continuité totale de nos parents, de ce que vivaient nos parents. Moi, je me rappelle d'un enseignant, pareil, au lycée, qui disait « Oh, quand on a une mère femme de ménage, tôt ou tard, on finit femme de ménage. Mmh. » Donc, on était assigné à l'échec. Mmh. Et quand on nous voit dans une scolarité qui n'est pas censée être la nôtre, alors tout de suite, il y a une forme de « white savior ».
Oui, oui, c'est ça.
On va sauver la seule personne racisée mmh. qui s'est retrouvée bac plus 4, bac plus 5, bac plus 6, on ne sait pas pourquoi.
Oui. Pas parce qu'elle a travaillé, pas parce qu'elle... voilà, c'est parce qu'on l'a aidée et qu'on a fait des quotas.
Voilà, exactement. Et donc, très souvent, on était renvoyé à ça. Pareil, quand je dois travailler sur un mémoire, ce serait bien d'étudier votre communauté. Ok, laquelle? La communauté de femmes étudiantes, Donc, on est assigné. Et puis, voilà, dans le milieu professionnel, c'est pareil. De l'assignation. Dès tout petit, il y a des choses qui ont un petit peu évolué.
Mm-hmm. Tu vois une différence entre ta génération, enfin, à ton époque, quand tu étais enfant et aujourd'hui, pour toi?
Ouais. Alors, je vois une différence, mais c'est pas tant le système qui a changé, c'est nous qui avons changé. Voilà.
Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça.
Voilà. Le système est le même. Mm-hmm. Et pour être à l'intérieur,
il est exactement le même, mmh. avec les mêmes propos, avec les mêmes orientations, la même volonté d'écarter et de nous donner la sensation de pas être légitime. Et je reviendrai justement sur cette question. Non, je vais en parler maintenant.
Oui, vas-y.
Justement, quand ils repèrent que des enfants peuvent réussir, on crée des internats de la réussite. Mm-hmm. On crée des internats de la réussite. Donc, qu'est-ce que c'est que ces internats de la réussite ? Ce sont des enfants de quartier mm-hmm. qui ont de très bonnes notes, qui réussissent, et on décide de les mettre dans des internats et de les séparer de leur famille.
Oui.
On décide de les séparer de leurs frères et sœurs, de leurs copains, de leur papa, de leur maman, parce que ce sont des enfants qui réussissent à l'école. Pourquoi ? Dans le centre-ville, mm-hmm. en dehors des quartiers. Mm-hmm. Pourquoi des enfants qui ne sont pas racisés,
on ne les
sépare pas de leur famille. Enfin, ça renvoie quand même à toute une histoire coloniale de séparation.
Exactement.
Et là, ces internats de la réussite, alors moi, je suis très satisfaite qu'on les ferme les uns après les autres. Mm-hmm. On ne doit pas séparer un enfant de 11, 12, 13 ans de sa mère, famille. De son père, de ses grands-parents, de son milieu. Mm-hmm. C'est ça qui lui donne sa force.
Oui, puis ça reste un enfant. Hein. Il a besoin quand même de sa famille, il a besoin de son entourage pour pouvoir grandir. Voilà, c'est comme n'importe quel enfant. On n'irait pas envoyer une petite fille, je sais pas combien de kilomètres de chez elle, sous prétexte qu'elle a des bonnes notes, et en se disant, bah non, elle n'a pas besoin de sa famille, quoi.
Mais complètement, complètement. Et c'est vrai que c'est là où il y a une différence entre la génération de mes parents et mon père et moi, c'est que j'ai évidemment compris le système parce que je suis un produit de ce système aussi et je le comprends et j'ai les armes pour le combattre. Je pense qu'à l'époque, si on avait dit à mon père « ta fille a du potentiel, on va la mettre en internat », Il aurait été l'homme le plus fier du monde. Il aurait dit oui. Mmh. Et il aurait sacrifié le fait... Il adorait ses enfants. Mmh. Il aurait sacrifié le fait de ne pas voir son enfant pour réussir. Mmh. Et même à l'âge de 12, 13 ans, 14 ans. Donc, on a aujourd'hui... on est armé aujourd'hui. Mais le système reste le même. Et il est peut-être encore plus pernicieux.
Mmh. Dans quel sens ?
Il est plus pernicieux parce qu'il est plus subtil, parce qu'il est plus opaque.
Mmh.
Voilà. Avant, au collège, c'était assez simple. Il y avait le professionnel, il y avait le général, et puis quelques filières dans le professionnel. Et puis, bon, le général, c'était... Voilà, c'était assez bateau, en fait. Donc, les enfants racisés allaient dans le professionnel, les autres allaient dans le général. Quelques enfants racisés, parce qu'il fallait bien mettre quelques touches de couleur.
Pouvaient aller en général.
C'était assez clair, c'était assez facilement. Mm-hmm. Tu pouvais avoir 14 de moyenne en 5e ou en 3e. Les profs... convaincront les parents pour dire c'est tellement mieux qu'elle aille travailler ou qu'il aille travailler tout de suite.
Un conseiller d'orientation et puis ça y est, c'est parti, en professionnel, qu'est-ce que vous voulez faire ?
Exactement. Et puis dire aux parents, mais vous rendez compte, vous avez 6 autres enfants, elle va pouvoir vous aider, ça va améliorer votre situation de vie, etc. Donc pour des parents sont dans cette optique de survie, ils disent oui, va travailler, on a besoin de survivre. D'autres
parents. Et même parfois en reculant, hein, ils vont dire oui parce que c'est les enseignants qui l'ont dit. Donc ils se disent, notre enfant n'est pas assez bon pour aller en général.
Mais complètement.
Ça peut être une déception aussi, mais ils vont l'accepter quand même.
Exactement. Et ils vont faire le deuil de ça, mais comme ils ont fait le deuil de tellement de choses.
Exactement.
Donc voilà, on va dire c'est des situations plutôt banales et plutôt claires. C'était clair. On savait qu'on arrivait à la 5e, on tremblait. On arrivait à la 3e, on tremblait. Mais là, c'est encore plus pernicieux parce que finalement, il y a beaucoup de voix. On parle des classes SECPA, on parle des ULIS, on a des psychologues scolaires. Bah, attends, pendant 10 ans, on a psychologisé la relation à l'école. Donc, c'est tellement plus facile de dire à un enfant racisé, Non, mais aujourd'hui, voilà, il y a des problématiques psy. Il n'est pas adapté à l'école. Vaut mieux qu'il prenne cette voie.
Exactement.
Et il rattrapera les autres voies. Alors, pour un parent qui se dit, bah oui, peut-être le savoir, le sachant, peut-être qu'il y a des problématiques psy. Quand on décale les choses subtilement en disant, c'est pas parce que vous êtes déracisé, mais c'est qu'il y a une problématique psy, problématique de santé, ou d'autres problématiques parce que vous arrivez toujours à en trouver, eh ben, on voit, dans telle filière, un nombre de racisés qui est juste surprenant. Et les orientations se font naturellement,
petit à
sans
petit.
Accro.
Voilà. Étape par étape.
Étape par étape. On prépare petit à petit et sans que personne se pose de questions. Et quand un parent se bat, c'est plus quelques enseignants aujourd'hui. C'est une communauté éducative entière et elle s'est étoffée, cette communauté éducative. Avant, on n'avait pas le psychologue scolaire ou l'assistante sociale. Il n'y avait pas les PPRE, les réunions de réussite éducative. Il n'y avait pas toutes les commissions qui existent. Donc, on dira aux parents, et je l'ai vu tellement faire, on dira aux parents, écoutez, nous avons eu 5-6 réunions avec tel professionnel de l'inspection, tel professionnel de la mairie, tel professionnel du scolaire.
Une réelle organisation, en fait, autour de tout ça, afin de dévier, en fait, l'enfant à la professionnalisation.
Exactement. Alors, je ne sais pas si de la part de la communauté éducative, c'est conscient ou inconscient, mais je pense qu'il y a assez d'études, assez de voix qui se sont élevées pour qu'aujourd'hui, ils prennent conscience de ce qu'ils font. Quand on en parlait la dernière fois sur le décrochage scolaire, une grande partie des enfants en décrochage scolaire, ce sont des enfants racisés. Je veux dire, ça doit poser question.
Exactement.
Alors, beaucoup de personnes y travaillent. Mais
il y a aussi le mal-être à l'école.
Et puis, il y a la question du mal-être à l'école, évidemment. Et il y a la relégation aussi.
Tout à fait.
Donc, on peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, on est des parents qui sont plus attentifs. Et même en étant attentifs, ils arrivent à faire passer nos enfants entre les mailles du filet.
Exactement.
Et d'orienter. Moi, j'ai travaillé pendant 4-5 ans avec les classes SECPA. Pendant les 4-5 ans, chaque enfant qui rentrait en 6e SECPA,
c'était des enfants racisés.
90% d'enfants racisés. Et quand on écoute le parcours de vie, quand on écoute le parcours... Mais en fait, il fallait juste qu'à un moment donné, quelqu'un écoute, prenne le temps et accompagne. Juste ça.
Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour la suite et fin de cet épisode avec Jeanne.
Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles.
Cinq, ainsi que
de partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook.
Et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché, @gmail.com.
À très bientôt, Ulrich.
En tout cas.
Moi, quand je serai grande, je serai actrice.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.